Sa différence, c'est effectivement qu'on commence à se poser des questions de, d'entrepreneurs sur par exemple la répartition du capital, sur comment est-ce qu'on des choses, comment est-ce qu'on quels sont les textes qu'on met en place, ce qu'on appelle les pactes d'associés ou d'autres choses. Donc on s'est posé toutes ces questions-là, on a découvert beaucoup de choses, c'était assez passionnant. Moi j'y connaissais absolument rien.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael Koenka, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute.
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Bonjour et bienvenue sur La Galère. J'ai le plaisir d'accueillir Théo Riffel, cofondateur d'Arcane. Derrière ce nom barbare se cache une startup magnifique. Bonjour Théo.
Salut Mickaël, enchanté d'être là.
Ça va ?
Ouais, très bien.
Merci de me recevoir dans ton superbe espace dans le sentier. Est-ce que tu pourrais nous présenter Arcane en quelques mots ?
Ouais, alors Arcane, on est une startup et on accompagne les hôpitaux à retrouver la souveraineté sur les données de santé qui produisent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on imagine un hôpital, on a un ensemble de services avec différents logiciels. Chaque logiciel va stocker des informations, des données sur les patients. Et ces logiciels-là communiquent très peu entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un guichet unique à l'hôpital où il y a toutes les données d'un patient. Et donc ça, c'est une vraie difficulté à la fois pour le soin, mais aussi pour les programmes de recherche. Et du coup, nous, on propose de construire ce guichet en agrégeant et en standardisant les données de santé pour les établissements de soins.
Alors, quand tu dis outils de l'hôpital, tu parles de quoi ? De l'échographe, du logiciel où il stocke les infos patients, etc.
Un peu tout. Il y aura, par exemple, le logiciel des urgences n'est pas le même que le logiciel de soins du reste de l'établissement. Okay. Donc, par exemple, ces deux-là n'ont pas forcément bien communiqué entre eux.
Et c'est évidemment deux informations potentiellement sur les mêmes patients, en fait.
Voilà, c'est-à-dire qu'un patient va arriver aux urgences, on lui crée un dossier, puis après, quand il va rentrer dans le circuit normal, on peut avoir des problèmes ou d'informations qui n'est pas communiquée depuis les urgences. Et c'est évidemment un problème parce que la situation du patient est grave s'il arrive aux urgences.
D'accord. Ah oui, ça c'est un sujet hyper intéressant et assez critique en fait, et très très moderne. On va y revenir plus tard. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton parcours en quelques bullet points?
Eh ben, donc moi j'ai un parcours orienté autour des maths et de l'informatique. J'ai fait du coup Polytechnique où j'ai commencé un peu en physique théorique et puis après je me suis recentré assez vite, qui était un grand coup de cœur, mais je me suis recentré assez vite sur plutôt l'intelligence artificielle. J'ai fait ma dernière année en master à Imperial College sur ces sujets-là et c'est là où j'ai commencé à me spécialiser sur la question des données sensibles et de la santé. Et donc voilà, donc une expérience vraiment autour de l'intelligence artificielle et puis ensuite seulement je suis rentré à Paris et c'est là que l'histoire d'Arcane a commencé.
Ok, hyper intéressant. Il y en a beaucoup de podcasts sur l'intelligence artificielle, mais encore rarement avec un fondateur technique qui sortait d'école et qui a fait une thèse là-dessus. Donc on va en parler. Pourquoi tu t'es dit, donc là je fais de la physique théorique, pourquoi tu t'es dit là je vais plutôt faire une spécialisation en intelligence artificielle à la sortie d'école ? C'était pour monter une startup ou pas du tout ?
Non, c'était pas forcément ça en tête, c'est plutôt Je pense que j'ai eu un questionnement un peu sur okay, quels sont les débouchés possibles qu'on peut avoir quand on fait de la physique théorique et, et j'avais un peu du mal à répondre à cette question-là. Et comme en fait, c'était la première année où ils ouvraient cette filière d'intelligence artificielle, je me suis dit ok, c'est intéressant, allons voir ce que ça va donner. Puis effectivement, ça m'a bien plu.
Et tu as décidé de faire quoi alors exactement? Il y a une spécialisation en intelligence artificielle, comment on fait?
C'est
faire en fin d'école d'ingé.
Aujourd'hui, je pense que quand je vois les cursus, c'est assez généraliste. On va aborder un tas de questions, faire de l'IA sur des images, un petit peu sur du texte. C'est plus récent ça, donc il y a un peu moins de parcours, mais ça se met en place. Et aussi un peu, je dirais, l'histoire de l'IA, c'est-à-dire que il y a un tas de technologies qui sont là depuis 20-30 ans. C'est pas les choses dont on parle le plus à la télé, mais finalement c'est des méthodes qui sont assez standards, qui sont assez pratiques et qui donnent un peu de culture générale sur qu'est-ce que c'est que l'IA. C'est pas juste les réseaux de neurones dont on entend parler tout le temps, c'est en fait un tas d'autres techniques, et donc c'est intéressant d'avoir ces bases là aussi pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Et toi, t'as fait quoi précisément comme master ou comme thèse après?
Donc mon master était à Londres, était en assez généraliste, mais ma thèse de master a été vraiment spécialisée autour de des données de santé, en particulier sur des questions de vision. Donc on a par exemple un IRM, c'était ça un peu le grand sujet. On a un IRM et on veut appliquer des modèles de détection de pathologies. Et comment est-ce qu'on fait, sachant que la problématique pour l'IRM, c'est que c'est des données qui sont assez volumineuses et les techniques de protection de données qu'on veut mettre en place là-dessus peuvent être difficiles à mettre en œuvre quand on a des problèmes qui sont compliqués. Ça marche plutôt pour des problèmes très simples parce que ça ralentit beaucoup le temps d'exécution.
Pourquoi tu t'es lancé sur ce mémoire sur la santé déjà?
C'était une opportunité. C'était vraiment une opportunité que j'ai saisie au sens où c'est un sujet qui me parlait plus que les autres sujets que je voyais. L'aspect santé, j'y suis assez proche parce qu'une grande partie de ma famille travaille en santé, dans la recherche en immunologie par exemple. Donc c'était un sujet qui me parlait et puis je me suis dit ok, c'est peut-être plus intéressant pour moi que de travailler sur d'autres thématiques. Enfin, l'IA, tu peux l'appliquer à beaucoup de choses, mais des fois, ça a un peu moins de sens.
Et donc, bon, pour ceux qui ne sauraient pas, par exemple, l'intelligence artificielle, pour le dire de manière très simple, sur l'exemple de l'IRM, on va entraîner beaucoup, on va entraîner notre algorithme sur plein de photos d'IRM où on aura dit « Ah, attention, ici, il y a un problème, ici, il y a un problème. » Donc, les IRM, c'est des grosses images. C'est pour ça que tu disais que ça pèse très lourd, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Et après, en fait, l'algorithme, en appliquant un certain modèle, va pouvoir automatiquement détecter la présence d'une anomalie sur la photo. Donc, potentiellement, alors, IRM, je vais dire des bêtises, peut-être tumeur ou des choses comme ça, quoi.
C'est ce qu'on peut détecter,
ouais. C'est ce que vous essayez de faire, voilà. Et il y a pas mal de boîtes qui sont lancées là-dessus, effectivement. Mais donc, c'est pas... Donc, vous avez fait ça? Vous avez eu des résultats
Ça a été un peu un tournant, je pense, par rapport à juste l'IA que j'avais pris en me disant « Ah bah tiens, je vais pas faire de la physique théorique. » Et effectivement, cette notion de protection des données était assez fondamentale. Là, j'ai rejoint une communauté qui s'appelle OpenMind, qui est une communauté de développement open source, qui crée des donc open source, ça veut dire que c'est des librairies que tout le monde peut réutiliser pour leur projet à eux, ou même si tu es une entreprise, tu peux le réutiliser. Et tout le monde peut contribuer. Donc, c'est vraiment un espace de collaboration qui, en l'occurrence, regroupe des gens de partout sur la planète, des États-Unis à l'Inde, en passant par l'Europe. Donc, c'était vraiment un projet très intéressant qui... et en fait, tellement intéressant que j'ai continué en fait à y collaborer à la fin, après la fin de ma thèse de master, et j'y suis en fait encore en tant que contributeur, à mes heures perdues. C'est un projet voilà, parmi d'autres, mais qui est extrêmement intéressant.
Cette communauté, elle, c'était quoi par exemple les projets auxquels tu pouvais contribuer de manière ouverte comme ça dans cette communauté?
Par exemple, donc une librairie qui s'appelle PySift et qui consiste à faire de la programmation, à l'analyse de données, donc avec le langage de programmation qui s'appelle Python. sur des données qui sont distantes. C'est-à-dire que, imaginons, toi, par exemple, Mickaël, t'es chez toi, tu vas te connecter à distance à un établissement et tu vas faire des analyses sur des images, mais tout va être à distance, tu ne vas pas voir l'image et juste tu vas pouvoir récupérer le résultat de ton analyse. Donc, par exemple, tu vas, je ne sais pas si tu veux calculer la moyenne d'âge, donc tu vas le faire à distance des patients qui sont à l'hôpital et tu vas juste récupérer la moyenne. Donc, c'est très intéressant parce que les données, elles, ne bougent pas en dehors des centres. Et juste toi le petit résultat qui t'intéresse bouge, donc en termes de confidentialité c'est vraiment un gain par rapport à commencer par télécharger toutes les données avant de faire ces analyses.
D'accord, donc t'es arrivé en fait sur la santé parce que l'IRM détectait les tumeurs et les choses dans la santé, c'était intéressant, et en fait tu t'es retrouvé à travailler plutôt sur des sujets de confidentialité, gouvernance des données, etc. Est-ce que toi, exactement, tu connaissais ces enjeux-là en tant qu'ingénieur avant de te lancer là-dedans?
Pas du tout, voilà. C'est vraiment, ça a été une porte ouverte dans laquelle je me suis engouffré. Et en fait, tant et si bien que du coup, j'ai cherché à faire une thèse dessus, en fait, quelques mois après avoir terminé cette thèse de master.
Et c'était quoi ta première rencontre avec ce monde de la gouvernance des données, de l'appartenance, etc.? C'était quoi? Parce que dans le cadre de votre master, vous avez rencontré les hôpitaux et tu t'es rendu compte que c'était compliqué. Enfin, comment ça s'est passé exactement?
Pas tellement. Au début, on n'a pas directement rencontré des utilisateurs. En fait, mon directeur de master, lui, était dans un laboratoire d'imagerie, donc il se posait ces questions-là, mais on ne rencontrait pas beaucoup d'établissements de santé ou de choses comme ça. C'était vraiment plutôt... je l'abordais du point de vue vraiment technico-théorique avec des gens qui étaient plutôt des experts de la cryptographie, de la protection des données. Et c'est plutôt... on a vraiment abordé du côté de « Ah, quelle est la boîte à outils qu'on peut faire ?» Et c'est seulement, en fait, beaucoup plus tard... en particulier avec le projet Arcane, qu'on s'est posé la question, ok, comment est-ce que ça s'applique pour de vrai, pour les vrais problèmes d'un établissement de santé, et comment est-ce qu'on y répond?
Donc là, tu contribues à des librairies qui permettent, d'un point de vue technique, de faire de l'entraînement d'algorithmes de manière plus respectueuse de là où est la donnée, pour pas avoir à télécharger la donnée, parce que c'est un des gros enjeux, on entend beaucoup parler de la télé, mais la donnée de santé, donc la donnée de tout un chacun concernant ses maladies ou son âge ou son poids, tout ça, c'est la donnée personnelle qui est extrêmement confidentielle, extrêmement sensible. Et donc vous avez entendu parler du RGPD, ne doit pas sortir globalement d'un hôpital qui a, lui, l'accréditation et la sécurité pour s'en servir.
Exactement, et certainement pas quand elle est nominative.
Voilà, et en pire quand elle est nominative. Donc c'est ça qu'on entend par tous les problèmes de accessibilité des données. Donc là, tu décides de continuer là-dedans, c'est ça, et de faire une thèse.
Alors voilà, il s'est passé un peu de choses, c'était du coup en fin 2018. À la fois, donc, j'avais la volonté de poursuivre en projet de thèse, parce que je me suis dit, ah, c'est vraiment un sujet qui me plaît et que j'aimerais pousser. Et comme c'est des technologies qui sont assez avancées, surtout sur le volet cryptographie, je me suis dit, ok, là, il faut que je sois encadré. C'est-à-dire que c'est bien de le faire de façon collaborative, mais si j'avais un directeur de thèse ou quelque chose comme ça, je pourrais aller beaucoup plus loin et surtout m'assurer que je ne fais pas des conneries. C'est vite arrivé en cryptographie. donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir commencer une thèse à mi-chemin entre un laboratoire de cryptographie à l'ENS et un laboratoire de machine learning, donc d'intelligence artificielle à l'INRIA. Et en parallèle, du coup, j'ai commencé Arcane.
C'était en parallèle de ta thèse, c'était en même temps.
Ça s'est fait, voilà, à quelques mois d'intervalle.
D'accord. Et ta thèse, c'était quoi le thème exactement? Donc le sujet de recherche ou
le sujet, c'était l'application de méthodes de protection de la vie privée, donc de façon assez générale, aux méthodes classiques d'intelligence artificielle. Donc c'était plutôt explorer l'ensemble des techniques qui existent dans le monde de la sécurité de la cryptographie, mais de gens qui sont pas du tout data scientists, et de se dire attends, est-ce qu'il y a des choses que je peux réutiliser en ayant à l'esprit le sujet de l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes parce que c'est deux mondes qui communiquent assez peu entre eux, donc il y a des bonnes idées mais qui pourraient être réutilisées d'une façon assez intéressante.
Parce que ce que tu sous-entends et qu'on n'a pas forcément explicité, c'est que pour entraîner un bon algorithme d'intelligence artificielle, il faut avoir accès à beaucoup de données de santé de patients, typiquement, pour entraîner cet algorithme-là. Mais on n'a pas forcément envie que tu sortes les données ou tu les donnes accessibles, ou que tu les exportes sur un Google Drive ou sur un disque dur pour qu'ensuite le développeur ailleurs, lui, dans son labo, fasse les algorithmes.
Voilà, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait beaucoup de données accessibles sans faire n'importe quoi?
D'accord. Et donc là, tu as commencé Arcane en parallèle. Donc, comment on fait pour se retrouver à lancer une startup en même temps que démarrer une thèse en cryptographie? Comment c'est arrivé?
C'est arrivé un peu, je dirais, par un heureux accident. C'est-à-dire que c'est une des personnes qui est devenue mon associé, Alexis, on a pris un café et puis il m'a dit voilà, écoutez, il y a ce projet que j'aimerais bien lancer et je cherche du monde. Et c'est vrai que moi j'avais toujours eu un peu en tête l'idée de faire de l'entrepreneuriat, puis sans vraiment avoir la bonne idée ou le bon sujet. Puis là il me dit ok, c'est les données de santé, c'est comment est-ce qu'on donne accès aux données de santé à l'hôpital qui les produit. Et donc c'était évidemment très en lien avec mes sujets du moment de protection des données, donc en particulier santé. Du coup j'ai dit ok, bon, on y va.
Et comment il t'a contacté? Attends, qui est
alors,
Alexis?
Alors,
comment
alors il a c'est, comment c'est il une bonne question, effectivement. Bah en fait on était ensemble à Polytechnique, donc ça, en fait on se connaissait bien, on a fait beaucoup de volets ensemble et du coup je le connaissais de là. Puis en rentrant de Londres, on reprend contact et puis on monte ça. Alors en fait on était quatre, parce qu'il y avait aussi deux autres personnes qui étaient dans le projet, qui étaient aussi eux, c'était, alors moi je les connaissais pas directement, c'était des amis de prépa en fait d'Alexis. Et donc voilà, c'était en gros que des copains d'études à différents niveaux. Et puis et puis on s'est retrouvés sur la même volonté de se dire bah voilà, on sort tous d'école et on a envie de faire quelque chose qui va être utile un peu pour la société. Donc c'était un peu une démarche qui peut sembler un peu candide, mais l'idée c'est vraiment de dire bah on va essayer. Voilà, on sait pas, on n'a pas d'expérience très très forte en entrepreneuriat, mais on va essayer de faire quelque chose. On a appris plein de choses à l'école et on va essayer de les mettre à profit.
Et donc vous aviez juste un axe et une vision, donc à ce stade-là vous avez déjà une idée de produit ou de solution. Enfin,
c'était plutôt
une vision.
Ouais, enfin. c'était plutôt une vision de se dire ok, voilà, on peut se rendre utile. Et puis on n'avait pas encore vraiment bien dégrossi le sujet. On avait tous un peu des expériences ou des intuitions de par nos premières expériences professionnelles, mais plutôt en stage. Donc c'était plutôt des intuitions et c'est là on a essayé de creuser un petit peu.
Comment se passent les débuts de la collaboration? C'est quoi? Vous créez une société, vous répartissez des parts.
Alors,
comment vous avez fait au début?
En fait, au début, on n'a pas fait une société, on a fait une asso. On a commencé en tant qu'asso, parce que c'est vraiment le but, c'était bah on va aller aider l'hôpital. Allez, on y va. Puis après, si jamais ça marche pas, on ira faire autre chose. On ira faire entre guillemets un métier comme tout le monde. Et du coup, on a vraiment commencé en tant qu'association. On a commencé dans les murs où on est aujourd'hui. Et on est allé voir du coup un premier établissement. On a un contact assez rapide pour essayer notre solution, pour essayer de montrer ça.
Vous avez déjà une solution?
Et très très vite, on s'est dit ok, il faut qu'on est tombé sur un standard de santé qui existait depuis plusieurs années, qui s'appelle FHIR et qui permet vraiment de normaliser la structure des données de santé. Donc on a fait un premier prototypage très très vite en quelques mois et on a allé le proposer à l'établissement.
Ah, donc vous avez quand même déjà bien ciblé le problème que vous vouliez adresser, le pain point pour les hôpitaux. Enfin, le pitch était le même au début que maintenant d'Arcane?
Dans les grandes lignes, assez en fait. Il y a vraiment des invariants qu'on a tenus tout le long qui sont vraiment de se dire le problème c'est que à la fois la donnée n'est pas structurée de base, c'est chaque logiciel qui la stocke comme il veut. Donc ça, on va aller vers un standard de santé et puis. Et donc voilà, la vision était un peu la même, c'est vraiment tout le comment en fait, comment est-ce qu'on fait ça d'un petit script d'étudiant vers une solution industrialisable. Ça, c'était tout notre cheminement en fait actuellement.
C'est hyper intéressant, mais comment vous avez validé le problème? Comment vous saviez déjà que c'était ça le problème? Parce que toi, tu avais travaillé un peu dans la recherche, un petit peu, mais pas directement avec les hôpitaux. Est-ce que les autres avaient plus travaillé directement avec les hôpitaux pour se rendre compte de ce problème, de plein d'outils, de data non uniformisé?
Ça, on a eu beaucoup de chance parce que avec le premier, du coup, notre premier partenaire avec qui on a commencé à travailler quasiment en co-construction, en fait, ils nous ont dit venez
passer l'hôpital, le premier hôpital.
Venez passer 3 semaines à visiter tous les services. Et du coup, en fait, on est vraiment allé voir plein de services différents avec plein de problématiques Et ça a permis un peu de valider notre analyse, de se dire, ah oui, effectivement, le problème, c'est juste que on a des logiciels qui sont très anciens, qui ne communiquent pas beaucoup entre eux, et il y a vraiment une décennie de retard par rapport aux autres industries. C'est-à-dire, ok, bah attends, tout ce qu'on a vu, nous, dans nos expériences préalables dans les autres industries, en fait, tout ça, ça pourrait marcher dans la santé. Et c'est ça qui nous a motivés. On s'est dit, ok, bah, d'après ce qu'on a vu de l'hôpital, bon, il y a vraiment un coup à jouer. Et donc, on a commencé comme ça.
Alors, hyper intéressant. Donc, vous avez premier partenaire hôpital qui vous a ouvert ses portes. Vous êtes allé voir, vous aviez déjà un proof of concept technologique.
Voilà, très basique, ouais.
Ouais. Est-ce que tu penses que vous auriez pu y aller sans avoir rien et juste lui dire, on est en train de réfléchir à ce qu'on veut faire et gagner 4 mois dans l'affaire, disons?
En fait, déjà, on l'a eu très très vite. Donc ça, on a eu pas mal de chance là-dessus.
Comment vous l'avez
eu? C'était par un contact qui nous a ouvert une porte là-bas, et ça, effectivement, ça a accéléré le processus. Et en fait,
réseau personnel.
Ouais. Et c'était vraiment. Voilà, c'était vraiment. On était aussi assez transparent sur le fait que c'était un peu le début. On avait un peu une idée, mais c'était. Je pense que c'était assez clair qu'on était très très débutants dans le projet. Je pense que personne ne s'est fait d'illusions sur le fait que notre produit était abouti ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'on a pu commencer assez vite, là où d'habitude, vraiment aller accéder à des hôpitaux, ça prend du temps. Même aujourd'hui, ça prend vraiment ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et là, on a une belle opportunité qui nous a beaucoup servi. Oui.
Et c'est sûr que le fait d'être jeune, d'être une association, de ne pas avoir d'objectifs clairs au niveau business ou des choses comme ça, et de parler d'IA, qui était une tendance qu'ils ne connaissaient pas encore, vraiment dans le monde de l'hôpital, a dû aider à ce que vous ayez accès pendant 3 semaines. En mode, ils vous ont ouvert les portes en mode parler à tout le monde.
Bah oui et non, au sens où aussi ça veut dire que tu vas parler un langage que l'hôpital ne comprend pas. Donc il y a un vrai effort d'essayer de se mettre sur la même longueur d'onde, surtout pour qu'eux aient l'impression que tu comprennes leur problématique. C'est-à-dire que si tu parles un langage entièrement différent, ils vont se dire ok, mais en fait ils n'ont rien compris à mon problème. Mon problème c'est le soin, mon problème c'est des problèmes très terre à terre d'un point de vue numérique. Et donc ça c'est la première difficulté. Et la deuxième, c'est aussi l'hôpital peut être très sympa, mais pareil, on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, qu'ils n'ont pas beaucoup de disponibilité. Et donc, le fait d'être une association et de venir avec un projet quasiment caritatif, au sens où on le disait, c'est gratuit, allez-y, c'est pour vous. C'est pas quelque chose qui va. En fait, c'est pas quelque chose qui marche très bien. Parce que l'hôpital va dire ok, c'est super, mais en revanche moi j'ai pas le temps, j'ai plein d'autres projets à faire avancer et qui sont plus importants que vous, parce que le vôtre il est gratuit.
Ah, ils préfèrent travailler avec Capgemini qui va leur mettre en place la grosse solution qui va régler leur problème qu'avec une association qui leur donne un truc gratuit.
On a appris, du coup on est après revenu voir d'autres hôpitaux, on a dit ah bah tiens c'est payant maintenant, et c'est comme ça en fait que tout a commencé, parce que dès que tu commences à vendre un truc un peu payant, c'est dur d'être une asso. Et donc à ce moment-là, on s'est transformé.
On va aller dans cette deuxième phase, mais déjà dans cette première phase, que tu peux te rappeler, tu as mentionné le fait de parler le même langage entre les soignants et vous, quoi. Est-ce que tu te rappelles de moments où ça s'est mal passé, de galères que vous avez eues dans ces 3 semaines ou des erreurs que vous avez pu faire?
C'est vrai que à ce moment-là, avec les équipes soignantes, on a été extrêmement touché par le fait qu'au début on arrivait et les gens étaient en mode ah non j'ai pas le temps, non qu'est-ce que c'est que ça et tout, et puis dès qu'on parlait un peu avec eux et qu'on leur expliquait, qu'on essayait de comprendre leurs problèmes, les gens s'ouvraient vraiment à nous et ils nous expliquaient leur métier et leur galère, et c'était vraiment très très touchant de voir la générosité des gens qui effectivement avaient pas le temps. On voyait vraiment leur service qui se débordait, mais ils prenaient une ou deux heures pour nous expliquer, et ça m'a beaucoup marqué. Mais après, les galères, ça a été un peu quand on a commencé à aller parler à d'autres acteurs pour essayer de leur vendre notre produit. Et des fois, vraiment, on est sorti de réunion, on s'est dit, mais attends, mais on ne s'est pas du tout compris. Parce que principalement, ouais, nous, on était 4 ingénieurs. Et donc, on parle de choses qui sont... on rentre directement dans le détail, dans les bases de données, dans les choses comme ça. Et des fois, les acteurs en face, on ne se rendait pas compte qu'ils étaient entièrement largués. Et enfin, notre discours, en fait, on n'avait pas un discours commercial. Donc, on arrivait avec un discours technique et ce n'était pas la bonne chose.
Ok, donc vous avez eu cette première phase en asso, vous avez eu un premier hôpital qui vous a ouvert les portes pendant 3 semaines, vous avez pu valider le problème et donc un petit peu sûrement changer un peu la solution ou avoir une idée de ce qu'il fallait développer pour la solution. Comment vous avez fait dans la suite, cette période-là durait combien de temps et vous avez fait comment dans la suite? Vous êtes tout de suite passé à payant ou alors vous avez fait d'autres rencontres avec d'autres hôpitaux sous le modèle un peu gratuit, etc.
Ça a pris, cette phase-là a pris à peu près un an, tu vois. D'accord. Et on a beaucoup travaillé aussi sur autour de la communauté open source. On a participé à Data for Good. On a vraiment bossé à fond ce côté, le côté associatif pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionnait. Et ça a aussi un peu participé à notre diagnostic que c'était pas forcément adapté si on voulait apporter une solution concrète pour l'ensemble des établissements. Et donc du coup c'est à l'été d'après, donc au bout d'un an, que là on s'est dit ok, maintenant il faut qu'on change de statut, il faut qu'on devienne une entreprise si jamais on veut pouvoir vraiment contractualiser avec des établissements de soins.
Donc là vous avez, pendant un an vous étiez donc toujours 4 à peu près.
Ouais.
Vous travaillez combien de temps par semaine sur le projet puisque tu avais ta thèse à côté quand même?
Alors effectivement, moi j'avais un peu ma thèse qui me prenait un petit peu de temps, mais du coup les autres personnes étaient à temps plein, ouais.
Ok. Et vous aviez un premier proto donc un petit peu avancé. Vous aviez contacté d'autres hôpitaux? Combien d'autres hôpitaux vous aviez?
La première année. Essentiellement, on a été vraiment pas mal sur le produit. On n'a pas vraiment fait énormément de démarchage. On a essentiellement commencé à tisser des liens avec la PHP, avec qui on a beaucoup travaillé par la suite. Mais c'était franchement le seul établissement.
D'accord. Et le produit à ce stade-là, donc tu as mentionné tout à l'heure le fait qu'il y a un standard de modélisation des données de santé qui permet bien de dire un docteur de tel type, voilà comment il faut l'appeler, une maladie de tel type, voilà comment il faut l'appeler, histoire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est appelé, cancer de la prostate, un truc, l'autre qui va l'appeler cancer prostate ou des choses.
Exactement.
Comme ça. Donc il y a un standard un peu uniforme qui s'appelle FHIR qui existait, donc vous basez là-dessus. Et donc votre premier prototype à cette fin d'année 1, que votre produit, il faisait quoi exactement?
Ce qu'il faisait, c'est il convertissait du coup les données d'une base dans ce logiciel vers ce standard-là. C'était une modélisation qui était très parcellaire, qui était, en fait, on n'avait pas encore cette expertise en interopérabilité dans les standards de santé, donc c'était assez rustique et surtout il n'y avait pas encore, par exemple, ne serait-ce que l'interface pour pouvoir requêter. Donc c'était vraiment, en gros, c'était vraiment la question à laquelle on essayait de répondre, c'était ok, est-ce que techniquement nous, petite équipe, on peut convertir, je sais pas, un demi-million de patients, les données les plus simples, et les convertir vers le standard. C'était ça, c'était vraiment...
La traduction. Donc.
La traduction d'un tout petit périmètre de variables. Vraiment, ça va être des choses aussi bêtes que le nom, le prénom, l'âge, l'âge du patient, des choses très très basiques. Mais juste, okay, est-ce qu'on sait faire ça? Est-ce qu'on peut l'automatiser un petit peu sans se poser vraiment des questions existentielles? Puis même, on n'avait pas forcément la connaissance métier derrière suffisante.
Ah oui, donc là, ce qu'il vous a fallu comme accès pour construire ça, c'est un accès à des logiciels. Donc ça, vous l'aviez avec votre partenaire en 3 semaines. Après, il vous a aussi donné l'accès à des bases et un logiciel à convertir, quoi.
On a eu des accès et on a réussi du coup à travailler et un peu à expérimenter. Mais après, en fait, ce travail-là, en fait, tu le fais aussi très très bien avec des bases qui sont disponibles publiquement, de bases pseudonymisées où tu peux aussi en fait t'entraîner et qui te donnent. En fait, c'est là-dessus qu'on a fait le plus gros de notre travail. Nous, c'est comme ça permet d'avoir un environnement qui est beaucoup plus sûr, parce que c'est pas des données sensibles, donc tu peux t'aiguiser un petit peu là-dessus, quoi.
Mais alors là, même les bases de données publiques correspondent pas forcément à un outil logiciel adopté par les hôpitaux.
Toute la difficulté de notre travail, c'est que à chaque fois qu'on va aller sur un nouveau logiciel, la structure des données en entrée va être différente, ça va être différents schémas. Notre expertise, elle consiste à être flexible. À comment est-ce qu'on peut s'adapter rapidement à un nouveau schéma de données pour en retirer toutes les informations qui sont essentielles qu'on aura besoin pour le standard. Donc c'est vraiment ça qu'on a essayé de développer, de voir comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est vraiment modulaire.
Donc travailler dans cette première phase avec des bases de données en ligne vous permet de tester ça, parce que toutes les bases de données en ligne auront des formats différents, et donc vous créez une solution un petit peu agnostique qui rapidement peut se convertir à tous les formats, quoi. Donc ce qui est quand même le cœur de la valeur d'Arcane. D'accord, donc vous avez quand même ce POC là, et là vous décidez de changer en société.
Voilà.
Ce qui peut changer beaucoup de choses hein, pour une équipe et pour un projet.
Alors oui, effectivement, ça a été... Sur le projet, ça n'a pas changé le projet parce que c'était vraiment pour nous faciliter le travail, c'était vraiment pour pouvoir continuer à faire ce qu'on voulait faire, mais avec plus d'impact. Donc, de ce point de vue-là, c'était... L'esprit restait le même, on continuait à développer notre code en open source, mm-hmm. on a continué à être très transparent sur notre stratégie. Donc ça, c'était pas la grosse différence. La différence, c'était effectivement qu'on commence à se poser des questions d'entrepreneurs sur par exemple là, la répartition du capital, sur quels sont les textes qu'on met en place, ce qu'on appelle les pactes d'associés ou d'autres choses. Donc on s'est posé toutes ces questions là on a découvert beaucoup de choses, c'était assez passionnant. Moi j'y connaissais absolument rien, et puis surtout en fait on a pu commencer du coup à avoir des aides ou des choses comme ça, et on a pu commencer à avoir du monde qui nous ont rejoint. C'est vraiment au moment où on a se transformé en boîte qu'on a commencé à avoir des personnes qui nous ont rejoint.
Et les levées de fonds aussi qui deviennent possibles. Alors, je pense qu'il y a des associations peut-être qui peuvent lever des fonds, mais ça peut être les aides publiques.
Levées de dons.
Une association peut aussi vendre des services, hein, donc vous n'étiez pas obligé d'être gratuit.
Alors, c'est vrai, mais en l'occurrence, c'était un peu un montage compliqué par rapport à la voie toute tracée de faire une start-up, en tout cas aussi en France, mais dans d'autres pays aussi. Mais sur l'ensemble de... Je veux dire, il y a tout un parcours, vraiment un parcours qui est oui. bien balisé, avec un ensemble aussi d'aides de l'État notamment, ou d'aides de différents organismes pour les startups dont il peut être intéressant de bénéficier pour pouvoir être soutenu aux premières étapes, qui sont toujours les plus difficiles.
Donc vous avez converti la boîte en SAS. Vous avez fait quoi après? Vous avez recruté des gens, t'as dit que des gens vous ont rejoint.
Ouais, exactement. On a eu les premières personnes qui nous
là,
ont.
Il fallait des sous à ce moment-là.
Alors oui, du coup c'est là où on a commencé à travailler avec la PHP qui nous a donné voilà une première rentrée d'argent, et puis aussi il y avait les capitaux propres qu'on a amenés. C'était pas grand chose, mais c'était aussi, ça permettait de financer quelques mois de développement.
Les quatre cofondateurs, vous avez mis des sous en propre?
Ouais.
Vous avez mis combien chacun?
Au total on a mis 50 000 euros pour commencer.
D'accord. Qui allait direct à de recrutement de personnes?
Donc, on s'en est servi, puis notre premier contrat.
Donc, en fait, premier contrat en ordre de grandeur, c'était quoi pour qu'on se rende compte, une boîte tech comme ça, sur un premier contrat un peu pilote avec un gros acteur?
Ça va vraiment beaucoup dépendre, je pense, des boîtes et des milieux. Nous, alors, en l'occurrence, on avait la limite de pas vouloir passer par des appels d'offres qui auraient été très longs. Et à ce moment-là, la limite des appels d'offres, c'était 25 000 euros.
D'accord, donc c'était un espèce de one-shot 25 000 euros pour un travail en collaboration avec la PHP sur une durée assez longue, quoi.
Non, c'était vraiment un petit prototype pour
commencer. C'était un petit prototype ?
Ouais.
D'accord. Pour de la recherche plutôt, c'était plutôt ça qui...
Ils étaient assez curieux de comprendre aussi ce qu'on faisait. Donc l'idée, c'était voilà, on fait un petit prototype ensemble, comme ça on leur explique un peu notre proposition de valeur, et puis eux qui ont une grande... expérience sur aussi le traitement des données, hein, c'est un centre qui est vraiment en pointe sur ces questions-là, pouvait aussi voilà ça leur donnait des idées, quoi.
D'accord. Ok. Hyper intéressant. Donc vous avez premier client, bravo. et un petit peu de son en propre, tu as mentionné des fonds publics, c'était à ce stade-là aussi vous allez chercher un peu des prêts ou des subventions BPI ou...
On a commencé à chercher voilà un petit peu à partir voilà au début un peu de cette période là, et ça a pris un petit peu de temps parce qu'on on en a raté quelques-uns.
Combien?
C'était le projet iLab, c'est une grande subvention BPI, okay. On s'est bien planté une fois, puis l'année d'après on l'a eu, mais c'est aussi voilà, c'est un peu comment dire, il faut apprendre un peu à faire ces formats-là de d'appel à subvention qui sont un peu particuliers. Et une fois que t'as pris le pli, ça va, mais au début il faut un peu se
ça vous a pris combien de temps et vous avez levé combien en subvention?
Je peux pas te donner le chiffre exact qu'on a levé, mais c'était assez progressif en fait. On a fait vraiment, on a commencé par des petites subventions, mm-hmm. qui ont ouvert la porte à des subventions un peu plus grandes. Et peut-être pour te donner un ordre de grandeur, nous,
ouais, c'est fait, quoi, une petite subvention là pour quelqu'un qui démarre.
Et tu vas vraiment commencer par avec des tickets qui vont être peut-être de l'ordre de voilà 25 000, 50 000 euros, puis tu vas monter assez rapidement à des tickets plutôt de l'ordre de 200 000 par exemple, des choses comme ça. Et en fait, nous, toute notre, j'anticipe un petit peu, mais toute notre, jusqu'à la première levée qui est arrivée finalement assez tard pour une jeune startup, elle est arrivée 18 mois après le début de la création. On s'est financé avec quelques contrats, mais majoritairement de la subvention et des prêts. Donc vraiment, ça a été notre cœur pour tenir et surtout pour recruter. C'est-à-dire qu'au moment où on a levé, on était déjà plus de 10 personnes dans l'équipe.
Tu as mentionné aussi des prêts. Ouais. Quel type de prêts ?
Différents types de prêts. Il y a des prêts qui sont spécialisés pour les startups. Il y a par exemple le programme Wilco qui peut être intéressant. Il y a eu aussi, on a été assez impacté par la crise du Covid parce que les hôpitaux n'avaient plus beaucoup de temps pour s'occuper de nous. On a aussi eu des prêts garantis par l'État, ce qui était un peu ce qui a été mis en place au moment du premier confinement. Et jamais de prêts personnels qui nous engagent. Ouais. Ça, c'était notre ligne rouge. C'est-à-dire qu'on a envie de pouvoir dormir la nuit si jamais ça ne se passe pas bien et de ne pas avoir à vendre... Bon, on n'a pas de maison, mais, c'est l'idée. Voilà, ça, c'était...
Tes parents ont une maison, peut-être.
Voilà. ça, c'était la ligne qu'on ne voulait pas franchir.
Hyper intéressant. Est-ce que tu penses que... Parce que ça, j'ai l'impression que les subventions et les prêts, etc., c'est souvent relié à... c'est plus facile à avoir pour des startups qui sont un peu deep tech, sur des technologies un peu d'avenir, etc., sur des sujets un peu de recherche et sur des sujets aussi qui sont proches de choses d'importance publique, comme la santé, comme les données de santé, comme les choses comme ça. Est-ce que tu estimes que vous avez pu faire ça parce que vous étiez exactement au sweet spot, au meilleur endroit pour pouvoir choper ces subventions?
Ah ouais, carrément. Ça fait aucun doute. Je pense que c'est ça, c'est la réunion des deux. C'est un sujet qui est la santé, qui, alors c'est pas forcément celui qui est le plus en vue d'un point de vue gouvernemental, mais il fait partie quand même un peu des priorités. Et vraiment l'aspect deep tech, l'aspect de le côté interopérabilité, le côté intelligence artificielle qui ont été clés. Et nous, et c'est un peu normal, c'est-à-dire que voilà, le but de ces subventions, c'est aussi de favoriser l'innovation sur des sujets de pointe pour créer les champions de demain. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Donc c'est aussi, ça nous incite, nous, en tant que jeune structure, à aller chercher des programmes un peu innovants d'un point de vue R&D, parce que c'est là-dessus qu'on sera soutenu aussi.
Ok. Donc là, vous avez le financement qui est un petit peu réglé, en tout cas pour les débuts. Vous êtes quatre, vous avez créé la société. Pourquoi vous avez... C'est qui déjà les quatre autres personnes? Est-ce que c'est... Tu m'as dit c'est tous des ingés, donc tout le monde code. Toi, tu fais un peu d'IA. C'est quoi vos autres recrutements? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire un peu le rôle du commercial dans cette histoire?
Alors ouais, en fait, on a été rapidement deux à coder plus et deux autres à faire plus l'aspect commercial, parce qu'effectivement, ça prend... En fait, un hôpital, ça prend beaucoup de temps quand même à... C'est une structure qui va être dont les processus de vente sont très longs parce qu'on va se voir beaucoup de foires, puis le sujet est très technique, donc on va aussi l'aborder en plusieurs étapes pour vraiment comprendre toute la complexité à la fois, d'autant plus qu'on n'était pas encore très très commerciaux, donc il fallait vraiment bien expliquer le truc, et d'autant plus que nous, ce qu'on fait, ce qui est parfois on le rapproche de la notion d'entrepôt de lait de santé, qui aujourd'hui est peut-être un peu plus à la mode, mais en 2018, personne connaît ça. Donc il y a vraiment un effort de pédagogie qui est très fort à faire. Et aujourd'hui, c'est plus simple, au sens où dans les hôpitaux, tout le monde connaît cette notion-là. Ils savent, on connaît l'intérêt, ne serait-ce que pour la recherche, d'avoir toutes ces données accessibles au même endroit. Ça a évolué très vite.
Théo a mentionné la notion d'entrepôt de données de santé. Qui a été un peu amené aussi par le débat autour du Health Data Hub ou des choses comme ça, qui ont donné un côté grand public, qui est l'idée d'avoir un centre de stockage un peu central où il y a toute la donnée de, de l'hôpital ou des hôpitaux à des fins de recherche.
C'est ça.
Et donc au début, effectivement, si personne connaît ce concept-là, ce terme-là dans les hôpitaux, c'est difficile de les convaincre. Tu as mentionné un cycle de vente très long. C'est quoi le processus? C'est quoi les interlocuteurs? Et ça prend environ combien de temps avant d'avoir un premier pilote avec Arkane dans son hôpital?
Je pense que... au tout début, quand tu connais personne, et tu vas déjà essayer de trouver une porte d'entrée. Ça peut être, en fait, ça peut être n'importe qui. Ça peut être par exemple un médecin.
Ah oui, parfois c'est.
Voilà, ça peut être ou bien ça peut être par l'équipe technique, la DSI, qui va peut-être mieux adhérer à un discours qui est assez technique. Et après, il y a beaucoup de ricochets. C'est-à-dire qu'on va aller trouver. Nous, on fonctionne beaucoup par cas d'usage. On se dit, là, on construit une architecture de données pour l'avenir. Mais déjà, on va te répondre à un cas d'usage maintenant. Donc, il y a toujours le travail d'essayer de trouver le cas d'usage. Donc là, c'est forcément une équipe médiée qui est appliquée ou administrative. On va forcément convoquer la direction des services informatiques parce qu'on va avoir beaucoup à travailler avec eux. Et puis après, il y a la direction générale aussi qui va être impliquée. Donc, tu vois, il y a toujours plein de boucles qu'il faut faire. Puis ces gens-là vont parler entre eux, ils vont se dire « Ah oui, ok, c'est vraiment bien, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce que le cas d'usage est clair ?» Et voilà, ça peut prendre entre 3 et 6 mois, je pense, le temps vraiment d'arriver à une contractualisation. Et après, une fois que c'est fait, en fait, il y a encore un peu du temps parce qu'il y a toute la partie technique de... En fait, on l'a dit, c'est-à-dire que l'hôpital est débordé. Et donc, ne serait-ce que pour avoir des accès à des bases, que tous les accès soient mis en place, ça peut aussi prendre beaucoup de temps. Donc, en fait, même une fois que c'est signé, il y a encore un temps d'attente avant qu'on puisse vraiment déployer, nous, notre solution.
Ok. Et donc, vos deux membres de l'équipe qui ont plus eu le rôle attribué de commercial dans cette période-là, comment ça s'est passé pour eux? C'était quoi vos premiers autres clients autres que la PHP?
C'était beaucoup de... l'écosystème de santé, c'est un écosystème qui est très particulier. Il est complexe parce qu'il n'y a pas que les structures hospitalières, il y a aussi tout ce que les ARS, les agences régionales de santé.
On a beaucoup entendu parler avec le Covid.
Voilà, il y a un tas de structures, donc déjà il faut essayer de bien comprendre qui fait quoi, qui est le financeur, qui décide de quoi. Bon, en France, c'est quand même plutôt les centres qui décident chacun individuellement, mais ça peut par exemple dépendre selon les différents pays. Et voilà, il faut comprendre un peu comment marche cet écosystème et aussi qui parle entre qui. Par exemple, en France, c'est très simple, les CHU parlent beaucoup entre eux. Donc c'est-à-dire que si tu commences à contractualiser avec un CHU, si ça se passe très bien, c'est super parce que les autres vont le savoir. Ça se passe pas bien, ils vont le savoir aussi. Donc tu vas te griller.
CHU, centre hospitalier universitaire, c'est un gros hôpital,
voilà,
qui a des capacités de recherche et d'enseignement, ce que n'aura pas une clinique privée ou un plus petit hôpital, en fait.
Exactement. Donc c'est des gens là qui peuvent être un peu plus ouverts à des sujets d'innovation, enfin qui vont avoir quelques années d'avance par rapport à d'autres centres. Donc vraiment, ça a été un apprentissage pour eux vraiment de bien comprendre ce milieu et de parler à beaucoup d'interlocuteurs. Pour bien saisir un peu les enjeux qui sont spécifiques au domaine.
Comment vous avez fait la répartition des parts? Est-ce que vous êtes plutôt à 25-25-25? Mais du coup, on se dit, ça peut peut-être poser des problèmes. Il y en a la moitié qui veulent faire un truc, l'autre moitié qui ne veut pas faire un truc. Est-ce que les quatre sont restés cofondateurs? Est-ce qu'il y avait plus de gens en capital au début? Comment vous avez fait cette...
Donc effectivement, au début, on était quatre au capital. On se l'est réparti de façon avec une formule extrêmement savante que je pourrais pas te redonner là, mais c'était pas tout à fait égal et qui prenait un tas de facteurs très très compliqués et en fait il s'est passé un accident assez standard de la vie des startups fin 2019, donc pas très très longtemps après le début de la startup, qui est qu'on a un associé qui est parti. Et donc ça a un peu rebattu toutes les cartes. On s'est dit, ok, comment est-ce qu'on fait? Alors à partir de là, on s'est dit, ok, déjà on va pas refaire des formules compliquées, donc on a décidé d'avoir tout le monde le même de part, ce qui est un peu plus simple. Et après, du coup, évidemment, on a réorganisé un peu la boîte. Tout ça.
Ok. Et donc là, le départ de cet associé, c'était pour quelle raison?
C'est, alors, c'est essentiellement des questions de gouvernance que je pense que tu peux assez bien comprendre, de se dire que bah, quand on est quatre à décider, bon, déjà, c'est
un nombre pair.
Déjà, c'est, voilà, ça fait beaucoup de monde, puis c'est un nombre pair. Donc c'est assez, tu peux facilement être dans des situations où tu n'arrives pas à décider parce qu'on a deux contre deux et on va pas labrer.
Personne qui peut trancher, ouais, tout voilà. À fait.
Donc ça, c'est évidemment, c'est quelque chose qu'on a plus du tout aujourd'hui, qui est beaucoup plus simple et qui, en fait, a été pénible à vivre tout au long de ces quelques mois où... Bon, en fait, on n'arrivait pas à prendre les bonnes décisions parce que sur des décisions qui sont très clivantes de la vie d'une boîte, bah, on n'y avait pas de consensus ou de majorité qui se dégageait.
D'accord. Et donc, lui, ça l'embêtait. Finalement, il a décidé de partir.
Bah, ça a été handicapant pour tout le monde. Et puis finalement, il a décidé effectivement de partir.
Vous avez fait quoi comme premier recrutement? Et c'est arrivé tout de suite après la création de la société ou c'était un peu après?
On a deux personnes qui nous ont rejoints au tout début. Un développeur en freelance et puis une personne qui était de mon école sortie d'école et qui s'est dit ok, bah, ça a l'air rigolo votre truc et du coup qui nous a rejoints pour tester un peu et pour...
Donc des développeurs au début, c'était principalement l'idée de renforcer l'équipe un peu technique, quoi.
Ouais, oui, c'était vraiment sur ce questionnement-là, de dire voilà, on a un problème qui est très technique, du coup il faut jouer en technique pour y répondre.
Ok. Donc là, si on avance un peu dans le temps, vous avez fait combien de recrutements? T'as mentionné une levée de fonds qui est arrivée ensuite.
Alors donc voilà, donc début 2021, on fait notre première levée de fonds. Ça c'est effectivement toi, au sens où on avait bien réussi à grandir avant, mais c'était plus difficile en termes de salaire de s'aligner avec le marché parce que c'est comment dire, des profils qui sont des profils qui sont très demandés et qui sont enfin on pouvait pas du tout s'aligner, c'est juste impossible et donc à partir de la levée on a réussi voilà un peu plus à le faire et aujourd'hui on est l'équipe bientôt 25 donc là on s'est beaucoup plus diversifié, ça a pris un peu de temps mais juste au moment de la levée on a vraiment perçu ce besoin d'aller chercher un peu plus sur les fonctions un peu plus commerciales, un peu plus de travailler plus au discours commercial avec des gens dont c'est le métier en fait, hein, tout simplement, qui n'était pas le nôtre à la base. Ou des gens, par exemple, on a quelqu'un qui nous a rejoint qui faisait de la vente des hôpitaux, mais chez Doctolib avant, par exemple. On a Maud qui était directrice marketing d'une grande boîte aussi, savait comment on peut mieux diffuser notre image au sein de ce milieu qui, encore une fois, est très particulier.
D'accord. Donc dans cette phase avant la levée, c'était quoi les plus grosses galères que vous ayez rencontrées?
C'est une bonne question. Je pense que ce qui est dur, c'est que on a un projet qui est un produit qui est très très vaste par essence et où pas grand monde s'est engouffré, et souvent au début on nous a dit mais attendez, vous n'y arriverez jamais à votre truc, et en fait on a réussi à faire des choses, du coup on se dit ah bah attends, peut-être que ces gens là ils n'avaient pas tout à fait raison et qu'en fait faut pas être si défaitiste, c'est pas parce que c'est un peu ingrat d'aller nettoyer tous les hôpitaux que ça va être impossible. L'écueil c'est parfois de, surtout pour une équipe jeune, et je pense que toutes les équipes un peu jeunes te le diront, de vouloir un peu à la fois réinventer la roue, c'est-à-dire ne pas suffisamment utiliser des solutions qui existeraient déjà et qui seraient libres d'accès en disant « Ah, moi, je vais le faire mieux. » En général, non. Ça peut arriver, hein, mais en général, non, quand même.
C'est-à-dire que vous aimez bien publier dans l'open source et vous n'aimez pas utiliser l'open source.
C'est, voilà, parfois pas faire assez de veille, pas assez vraiment se rendre compte de ce qu'il y a en face. Et ça, c'était, je pense, c'était une de nos erreurs. Et la deuxième, c'est de vraiment vouloir, et qui est un peu lié, c'est vouloir tout faire et pas se pas définir clairement, parce que souvent aussi au début quand on commence on est très opportuniste, on va se dire ok, je veux, dès que j'ai une opportunité je vais la saisir, parce que bah, ça me fait voilà, déjà je suis un peu tendu sur l'argent, puis je vais me faire, ça va me faire prendre des trucs, puis j'ai beaucoup d'envie, j'ai envie de tout dévorer. Et de pas se mettre un peu des frontières et de se dire ok, ça c'est en fait c'est pas la spécialité d'Arcane, tel truc non, ça c'est peut-être quelqu'un d'autre, peut-être même j'ai un copain qui peut le faire et du coup je vais l'encarder sur ce projet là mais moi je vais le laisser, et pour pas trop me disperser vraiment, je pense ça a été vraiment ça, définir c'est quoi notre produit et qu'est-ce qu'on va juste ne pas faire.
Ah, t'as un exemple de ça? Au moment où tu t'es dit, là, vous avez fait une mission qui vous a dispersé, ou un truc que vous avez refusé parce que finalement c'était loin du corps de la vision et que ça allait vous faire perdre un petit peu 3 mois en fait.
Moi j'ai plutôt des exemples où on s'est un peu planté. Genre vraiment, genre une librairie qu'on a commencé à faire de toutes pièces en se disant, ok, on va la faire, elle va être très très bien. C'était du coup sur le standard de Synthefire, de monter la partie un peu API et requêtage de ce standard qui est très compliqué en fait en termes de normes. On s'est dit ok, on y va. Et en fait au bout de un peu moins d'un an de développement, on s'est rendu compte ok, non mais notre truc il est, c'est en train de faire un truc qui est très complexe, alors qu'il y a des solutions ailleurs qui sont peut-être un peu moins souples, mais qui vont être juste plus simples pour nous. Et...
Tout à fait. Donc, pour visualiser, pour des gens qui ne seraient pas techniques, quand on a un standard de modèle de données, en fait, par-dessus ça, on va créer ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire un espèce de portail pour que les développeurs puissent faire des requêtes, faire des recherches, discuter en fait avec le standard de données. Et pour ça, il faut spécifier tous les modes de discussion. Donc, il faut dire, ah bah là, si tu passes par cette porte-là et que tu tournes la clé dans tel sens, bah voilà le type de données que tu vas avoir, etc. Et spécifier une API et mettre en ligne ce type de portail, c'est un projet informatique à part entière. Et donc là, il y avait déjà un portail préexistant qui existait, sur l'étagère en open source, et vous avez voulu vous refaire de zéro tout ce propre portail sur un standard de données qui est énorme. Donc, c'est un énorme travail de jouer avec toutes les subtilités du modèle, tous les types de requêtes, tous les types de recherches. Voilà.
Exactement.
Effectivement. Et au niveau du scope, donc ça c'était ça que tu mentionnais au niveau du scope, mais au niveau des demandes clients, vous n'avez pas eu des choses qui étaient un peu à la frontière? Vous êtes dit, ah non, ça c'est trop du dev custom ou des choses comme ça?
C'est une question qu'on se pose tous les jours en fait.
Ah ouais,
c'est une question du quotidien, de dire ok, qu'est-ce que
la roadmap produit,
voilà, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on rejette. Et c'est vrai qu'on est toujours tenté, tu vois, de se dire ah, il y a un projet vraiment qui peut être très intéressant. Et voilà, c'est assez courant qu'on finisse par dire, tel truc, soit on le file à quelqu'un d'autre, soit au moins on le retarde pour plus tard. On dit, ok, ce truc-là, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas du tout notre priorité, on veut pas investir là-dessus. Et quitte à se dire, peut-être que dans quelques mois, ça sera le cas, mais il faut y renoncer. On est une petite équipe, donc on peut pas tout embrasser.
Y a un point que t'as pas abordé, c'est que en fait Arcane c'est un petit peu un projet, je vais dire le mot hacker, mais pas du tout dans un sens hack ou violent, mais il y a un côté ou illégal ou quoi que ce soit, mais il y a quand même un côté où la manière dont vous faites comment vous faites pour vous connecter à tous ces logiciels qui ont peut-être pas dit qu'ils étaient d'accord pour donner leurs données vers l'extérieur, parce qu'il y a quand même un ancien monde à briser en fait, ce que t'as peut-être pas exprimé jusqu'ici, mais
Effectivement, ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que il y a quand même un reproche qu'on peut faire à l'ensemble de ces solutions existantes, qui sont que elles n'ont pas beaucoup innové sur les dernières années. Alors, en tout cas, elles n'ont pas du tout innové sur la partie interopérabilité. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que les données sont vraiment captives en fait du logiciel, qui par exemple, si on le débranche parce qu'on veut plus l'utiliser, en fait, il va partir avec les données, au sens où les données sont dans un état qui est tellement spécifique qu'on ne peut pas les réutiliser. Donc nous, voilà, on est parti vraiment un peu en guerre contre ça, c'est-à-dire que au sens où pas contre les éditeurs, mais contre des pratiques qui sont d'un autre temps. Et il se trouve que les bases de données sont hébergées à l'hôpital, et finalement, c'est quand même les données de l'hôpital. Donc c'est
sur les serveurs des hôpitaux.
Voilà, exactement. Donc ce sont les hôpitaux qui nous donnent accès. Alors attention, on peut que lire, on peut pas écrire dedans, on va pas casser les logiciels, c'est pas le but, mais effectivement c'est l'hôpital qui décide que ah oui, ok, voilà, moi je veux évoluer dans ma gouvernance de données, et du coup je vous donne l'accès à Arcane là-dessus. En revanche, ça existe aussi de plus en plus maintenant, des logiciels qui vont stocker les données en dehors des établissements. Et du coup, eux, on a eu...
Dans le cloud.
voilà, dans le cloud. Et on a eu un cas d'un établissement qui disait à l'éditeur, bah, vas-y, donne l'accès. Et puis l'éditeur qui refuse, en fait. Et ça, ça pose beaucoup de difficultés en termes d'éthique, c'est-à-dire que c'est d'un point de vue bah, gouvernance de la donnée, à quel moment un éditeur de logiciel ou n'importe qui peut dire non, je refuse de donner accès aux données de santé en brut à un hôpital qui en fait la demande pour donner des patients. C'est assez compliqué, donc effectivement ça s'est pas très très bien déroulé, mais ça interpelle beaucoup en termes de mentalité.
En fait, cette barrière-là, tu dis, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts à l'innovation, l'interopérabilité, c'est parce qu'en fait, l'ancien monde de tous les éditeurs de logiciels du monde, y compris la santé, c'était de dire, plus je fais des modèles qui sont peu interopérables et plus compliqués, plus au prochain appel d'offres, ils vont se dire, oulala, migrer la donnée de mon logiciel vers ailleurs, ça va être compliqué. Donc en gros, ils vont rempiler pour un second 5 ans d'appel d'offres avec moi. Quoi.
C'est exactement ce qu'on voit dans les faits.
Voilà, c'est ça. Donc, et l'interopérabilité, t'es pas dans les cahiers des charges forcément des acteurs à l'époque, parce que c'était moins un sujet, on était moins habitué à la donnée, on voyait moins ça comme quelque chose de central, etc. Mais dès qu'on veut faire de l'analyse avec de l'IA et améliorer sa qualité et son efficacité de manière automatique, bah, c'est un sujet qui arrive. Donc voilà, donc Arcane se connecte vraiment à toutes les bases de données un petit peu à la main, une à une. Tu as dit que c'était un travail de fourmi, c'est pour ça que les gens disaient que c'était impossible, parce qu'en fait, il y en a 12 000 formats de 12 000 trucs, et donc c'est pour ça qu'il faut aussi tant de développeurs qui travaillent sur ce sujet.
Ouais, tout
quoi.
À fait.
Ok, et donc là, vous avez pu lever de l'argent auprès de quel type d'investisseurs? Comment s'est fait la levée? Combien vous avez levé? Combien de fois?
Alors, on a fait une levée de fonds. Et on a pris deux fonds qui nous ont accompagnés. Un fonds technique, vraiment, qui représente aussi donc toutes les activités un peu de gestion, voilà, de gestion des données qu'on a. Et puis un fonds du coup médical, qui comprend mieux les enjeux côté par exemple établissement de soins. Et donc on s'est dit, voilà, avec les deux, ça nous permet d'avoir un peu tout le scope de notre problème. Et du coup, voilà, on a levé au début de 2021, on a levé 4 millions. Et voilà,
considéré comme un seed.
C'est une grosse seed. C'est ça. Et voilà, donc pour nous accompagner sur les 18 2 ans à venir.
C'est toi qui as mené cette levée ou c'était un autre de
Alors,
tes
pas du
camarades
tout. C'est Emric, un autre associé qui a mené le gros de la levée. Ouais.
D'accord, ça vous a pris combien de temps à peu près? Vous en avez vu combien des fonds? Enfin, c'était galère ou c'était pas galère? Parce qu'il y a des gens pour qui c'est galère, des gens pour qui c'est moins galère.
Je pense que si Emric était là, il dirait oui, ça peut être un peu galère. Nous, ça a été long parce que on connaissait pas les codes. C'est aussi, voilà, après la santé, c'est aussi un environnement, l'environnement des VC, c'est quelque chose qui est très particulier. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de jargon autour de la term sheet. La term sheet, c'est le premier document que l'investisseur va te donner en disant « Ok, ça m'a l'air pas mal ce que vous faites, je serais prêt à mettre un ticket pour tant d'argent et tant de parts et avec quelques conditions un peu frustres. » Et puis après, on va plus loin en détail. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Tant au début, quand tu vas aller voir tous les VC pour essayer de les convaincre, qu'à partir du moment où tu en as quelques-uns qui marchent bien, et là, tu vas commencer à négocier. Et nous, c'est vrai que il y a vraiment ce qui était fondamental, nous, de par aussi notre histoire, c'est d'avoir un ownership complet sur la gouvernance, de pouvoir, voilà, faire les choix métiers qui nous semblent les bons. Et donc c'est quelque chose qu'on a pas mal discuté, et donc ça a pris beaucoup de temps, et puis finalement on a réussi à se mettre d'accord, mais c'est vrai que c'est un processus qui prend le temps et l'énergie, d'autant plus quand tu connais pas et que tu tâtonnes un peu pour trouver le bon discours et les bons arguments et bien comprendre la façon de faire de la chose. Et voilà, nous on a été un peu très très scolaire, essayer de bien tout comprendre et surtout toutes les implications de ces contrats à ramification.
Et vous avez quand même réussi, donc bravo. Et depuis cette levée, il s'est passé quoi pour Arcane?
Bah, il s'est passé pas mal de choses. Du coup, une augmentation conséquente de la taille de l'équipe. On a pu recruter des gens plus seniors aussi, parce qu'on a pu rattraper le marché. Et donc, un peu passer sur la partie industrialisation Tant de la stratégie commerciale, voilà, on peut mettre en place des processus qui sont plus standards que sur la partie technique. C'est de rationaliser un peu notre architecture de données et puis continuer, voilà, continuer l'expansion de notre marché, quoi.
Ok, et en termes de chiffres, ça veut dire que vous êtes arrivé à combien de clients aujourd'hui? Même si c'est juste une fourchette.
Aujourd'hui, voilà, on bosse avec plus d'une dizaine de CHU, de centres de lutte contre le cancer, par exemple avec l'Institut Curie, avec le CHU de Reims, le CHU de Toulouse, par exemple. Et puis voilà, donc c'est vraiment comment est-ce que tu vas aller industrialiser ça pour aller chercher à la fois dans les réseaux particuliers, par exemple les autres CHU, comment est-ce que tu vas aller les convaincre, ou bien aller par exemple à l'international, comment est-ce qu'on se projette au-delà des frontières françaises.
Et là, vous êtes toujours sur des pilotes en dessous des processus d'appel d'offres. Aujourd'hui, là, vous essayez de... C'est quoi votre business model, en fait? Comment vous vous rémunérez, en fait, sur Arcane?
Non, aujourd'hui, voilà, c'est plus... On passe plus par ça. On a un truc assez formidable en santé qui s'appelle les centrales d'achat. Centrales d'achat, c'est le fait de répondre à un appel d'offres une fois pour toutes, qui est donc émis par une centrale d'achat et qui après va permettre à des hôpitaux d'acheter sur étagère la solution Arcane. Donc c'est un peu comme ça qu'on passe pour éviter les différents plafonds d'appel d'offres. Donc c'est la façon de faire vraiment en santé. Donc c'est comme ça qu'on procède. Et alors, ta deuxième question, j'ai oublié.
Je disais, c'était quoi un peu votre business model, quoi? Est-ce que c'est l'hôpital qui paye tout le temps, ou est-ce que parfois il y a d'autres acteurs qui payent? Au début, en tout cas, c'était les hôpitaux. Mais...
C'est une très bonne question. L'idée, c'est pas du tout de saigner l'hôpital public pour développer Arcane. On le sait, hein, c'est des structures qui n'ont pas beaucoup d'argent, et le but, c'est pas de leur vendre un truc qui coûte des 1000 et des 100. Donc nous, notre stratégie là-dessus, elle est très claire. C'est vraiment de déployer, je dirais, à prix coûtant notre architecture, en se disant, en fait, ce qui compte, c'est de faire une bonne fois pour toutes le ménage de la donnée, et après on va pouvoir faire plein de trucs intéressants. Donc aujourd'hui, c'est ça notre stratégie. Donc on a un modèle où on va aller juste déployer, voilà, à petit prix, faut pas perdre de l'argent, mais quand même à petit prix, notre infra. Et derrière, on va capitaliser sur les partenariats qui peut y avoir derrière. Par exemple, je sais pas, un exemple classique, c'est la recherche clinique. La recherche clinique, voilà, il y a des boîtes de pharma peuvent être tout à fait intéressées pour faire par exemple des études de... Ils mettent un médicament sur le marché, ils vont vouloir étudier comment est-ce que ça réagit en connaissance réelle sur un large bassin populationnel. Et là-dessus, ça veut dire qu'il faut pouvoir interroger plein de centres dont certains patients ont reçu tel médicament, et voir comment ça s'est passé pour eux. Et évidemment, nous, on peut être bien situé là-dessus pour fournir des données, par exemple, en termes de recherche clinique. Et puis là-dessus, il peut y avoir des débouchés financiers, parce que les études cliniques, c'est vraiment des choses où il y a beaucoup d'argent en jeu. Et du coup, notre vision, c'est de se dire, aujourd'hui, les boîtes pharma récupèrent les données de santé auprès des établissements, mais à la main, de façon opaque. En mode
Excel, quoi.
Sans vraiment transparence. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut un peu industrialiser ça pour que chaque centre puisse savoir exactement à quelles études ils ont collaboré, que l'établissement se fasse rémunérer là-dessus, de façon officielle, un peu comme s'il y avait un vrai contrat, et Arcane aussi se rémunère là-dessus, et à terme, en fait, aussi que tous les patients puissent avoir un consentement éclairé, de se dire, ah oui, attends, alors déjà, j'accepte ou pas, et puis de façon rétrospective, de savoir, ah oui, ok, mes données ont été utilisées dans le cadre de telle ou telle étude. Ce qui aujourd'hui est quelque chose qui est entièrement impossible, opaque, qu'on ne voit pas du tout. Donc c'est un peu tout ça. C'est à la fois faciliter ce travail-là qui existe, et puis apporter de la transparence.
Ok. Et vous faites aussi des collaborations avec des startups parfois, c'est ça?
On en fait aussi. Et du coup, dans ce cas-là, on peut mettre à disposition des données déjà structurées pour des startups, pour faciliter ce travail que toute startup peut avoir, qui est d'accéder à la donnée, ce qui est extrêmement long, quoi.
Donc une start-up qui voudrait fournir un service à l'hôpital et a besoin un petit peu d'avoir accès à la donnée pour faire son service, par exemple un système d'analyse qui te prévient de tous les patients qui peuvent avoir un risque élevé de certains cancers, je ne sais pas, j'imagine. Plutôt que d'y aller toute seule et de faire le travail avec l'IT, vous allez avec Arken qui pourra dire bah, pour la partie interopérabilité préalable à l'installation de notre système, bah, ça ira plus vite parce qu'ils sont déjà, très forts là-dedans.
C'est ça, exactement. En fait, on en accompagne quelques-unes déjà et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire.
Par exemple, c'est public ?
Ouais, je peux te parler de... Par exemple, il y a un projet de prédiction, par exemple, du temps d'attente aux urgences. L'idée, c'est que voilà, quand quelqu'un arrive, en fonction de l'affluence, par exemple, aux urgences, on peut, entre autres, on peut lui prédire voilà, le temps qu'on estime qu'il reste. Ou bien, encore un autre projet où on va faire de l'optimisation de... Enfin, c'est une startup qui fait l'optimisation de planning. Et du coup, bah là, c'est pareil, il faut avoir accès à l'ensemble des données de soins pour pouvoir, voilà, typiquement, comment est-ce que voilà, on répond automatiquement au fait d'avoir une personne de l'équipe médicale qui est absente, et comment est-ce qu'on réorganise tout l'emploi du temps.
Et sur les cas d'usage prioritaires au niveau plus médical, sur les études cliniques et tout ça, il y a quelque chose qui se dégage aujourd'hui pour Arken, c'est plutôt en... Dans l'étude des cancers, c'est ce que tu avais dit.
On a pas mal de choses en cancéro. Aujourd'hui, voilà, on est assez ouvert sur les sujets. C'est vrai qu'on a eu des opportunités là-dessus. On a beaucoup bossé justement avec les centres de lutte contre le cancer, comme l'Institut Curie, sur des thématiques. Et c'est des choses qu'on investigue. Ouais.
Ok, c'est super. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelque chose dont on a un peu parlé au début, un peu parlé au milieu, mais en fait qui n'est pas revenu dans la discussion qu'on a eue avec Théo là, qui est l'intelligence artificielle. Finalement, on n'en a pas du tout parlé. On a parlé de nettoyer des bases, les connecter entre elles et les ressortir sous un nouveau format qui est juste, disons, de la plomberie de très belle qualité, hein, mais reste une certaine plomberie automatisée. Et on n'a pas du tout parlé de prédiction ou d'usage d'intelligence artificielle, alors que ça fait un peu partie du pitch, enfin, je crois. Êtes là-dessus? Peut-être pour ça que vous avez levé aussi.
Alors ouais, ça c'est un vrai sujet. C'est vrai que souvent on se dit, les données, elles sont en base, elles sont dans des colonnes et on va les récupérer, le nom, le prénom du patient. Mais en fait, il y a tous les documents que vous voyez, par exemple, dans le cadre du soin, qui est les prescriptions, les comptes rendus hospitaliers, les choses comme ça, qui, eux, sont voilà, c'est des documents Word qui sont saisis directement, par exemple, par l'équipe médicale ou des choses comme ça.
C'est de la donnée non structurée.
Et donc, c'est du texte, exactement. C'est du texte, mais avec plein d'informations hyper importantes sur les antécédents familiaux, les antécédents médicaux d'un patient, l'ensemble des traitements qu'il a reçus ou les résultats d'examen. Enfin, il y a des informations qui sont cruciales et qui ne vont pas forcément être disponibles ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, quand un médecin va dicter, son diagnostic qui va être retranscrit dans un Word, ça sera écrit nulle part ailleurs. Donc, c'est là qu'il faut choper l'info. Donc, nous, notre travail, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette information, donc ce texte libre, médical, puisse être automatiquement restructuré. C'est-à-dire qu'on va en extraire l'ensemble des informations d'intérêt, typiquement... l'ensemble des maladies diagnostiquées ou des médicaments prescrits et pour ensuite les intégrer dans notre standard de données.
Comme ça, quand quelqu'un dira « Donne-moi tous les médicaments pris par cette cohorte », eh bien, ça ressortira bien le nom des bons médicaments attachés à chaque patient, ce qui serait impossible si on avait juste le texte libre marqué dans une case, parce que la base de données, en gros, le portail créé par Arken ne pourrait pas reconnaître instinctivement que ce texte-là correspond au médicament.
Exactement. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est essentiel parce que c'est une problématique que beaucoup de gens, en particulier les startups, vont aller avoir de faire sens de ce texte-là. C'est dur, ça demande beaucoup d'expertise. Du coup, nous, on essaie de le faire une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire, voilà, d'enlever un peu ce fardeau à l'ensemble de l'écosystème data pour qu'ils aient accès à ces données-là qui sont par essence très difficiles à les récupérer.
Et ça, c'est quoi votre effort mis là-dessus aujourd'hui? C'est la moitié de la boîte qui travaille sur... Parce que ça c'est des algorithmes plus poussés hein, de deep learning. Enfin, c'est vraiment de l'intelligence artificielle assez poussée, voire à l'état de recherche, etc. C'est quoi votre effort là-dessus? Vous en êtes où?
Aujourd'hui, on est quatre sur la partie purement théorique de science. Et puis après, il y a encore le reste de l'équipe de développement qui va nous appuyer sur la partie logicielle. Donc, c'est un effort qui est non négligeable, mais qui va grandir au cours du temps. On va avoir plusieurs... plusieurs annonces intéressantes dans ce sens-là bientôt. Mais c'est voilà, c'est vraiment, c'est en train de, c'est voilà, c'est compliqué. Donc il faut du monde. On a une collaboration historique avec INRIA et qu'on va renforcer aussi là dans les mois à venir. Avec des chercheurs, avec des gens qui ont bossé dans le domaine depuis des années, parce que en fait c'est essentiel pour réussir à bien progresser sur un domaine qui est compliqué comme celui-ci.
Ok, super. Et c'est quoi la vision pour Arcane dans les prochaines années?
L'idée c'est vraiment de réussir à montrer qu'une solution qui prenne l'ouverture par l'interopérabilité, mais pas aussi par l'open source ou par, tu vois, aussi la transparence sur notre stratégie, puisse porter ses fruits pour à la fois l'ensemble des établissements français, mais aussi aussi plus largement en Europe. Il y a beaucoup de choses à montrer, mais notre espoir c'est que d'ici voilà quelques années, aujourd'hui on a la chance d'être déjà assez bien identifié, notamment auprès des CHU, même ceux chez qui on n'est pas encore client, mais à terme d'être une référence en termes à la fois d'interopérabilité et de partenaire de l'hôpital pour sa souveraineté des données.
Super. Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance? Sachant que là, c'est l'entrepreneuriat spécifique, hein, parce que c'est l'entrepreneuriat tech et dans la santé, mais est-ce que tu trouves qu'il y a encore des choses à faire là-dedans ou...
Ah, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut être, effectivement un peu à l'écoute des problèmes des gens. Nous, ça nous a fait un bien fou. Là, c'est trois semaines qu'on a passé au tout début, aller vraiment voir les équipes soignantes et comprendre leurs problèmes. Ça, c'était incroyable. Et le vrai conseil que je donnerais, c'est celui qu'on donne tout le temps, mais il faut le répéter, c'est de pas réinventer la roue. Vraiment pas. Vraiment pas. Ça sert à rien. Les gens l'ont déjà fait. Ils l'ont fait mieux que toi. Commence par utiliser leur truc, puis après tu verras si tu peux faire mieux.
Ok, bien écoute, merci beaucoup Théo pour ce super entretien autour d'un sujet assez magique qui est l'interopérabilité des données de santé. Et bon courage pour Arcane et à la prochaine.
Ben, merci beaucoup, au revoir.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire, ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Évidemment, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.